Bienvenue sur StratPol, nous sommes le mercredi 17 avril 2024, c'est notre bulletin 182 et nous sommes toujours à Moscou. Je tourne exceptionnellement ce bulletin mercredi puisque en fait jeudi, donc c'est-à-dire au moment où sortira ce bulletin, eh bien je serai dans l'avion puisque j'arrive en France notamment pour quelques conférences. Voilà, avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider, vous abonner sur notre canal Tipeee, Patreon, PayPal, également Telegram payant. La conférence donc mensuelle a eu lieu hier, mardi, et donc vous pouvez aller la regarder pour ceux qui sont évidemment abonnés. N'hésitez pas aussi à vous procurer le livre qui explique pourquoi la Russie a gagné la guerre le 24 février 2022. Voilà, maintenant, bon, sur LCI, c'est à peu près tous les jours, on dit la même chose que nous. Mais pour revenir vraiment aux sources et surtout comprendre l'erreur, en fait, hein, qui a été celle de tous les analystes, que ce soit du domaine purement militaire, militaro-industriel ou économique, eh bien, achetez-vous Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Voilà, et puis bien sûr, abonnez-vous à Géopolitique Profonde, notre partenaire, voilà, de l'excellent Frank Pengam que nous avons vu récemment sur notre chaîne. Et d'ailleurs, je participerai à une émission sur Géopolitique Profonde vendredi soir avec mes amis Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, voilà, que du beau monde. Avant de rentrer dans le domaine économique, je voudrais vous parler d'une interview extrêmement intéressante qui est celle de Pavel Durov. Alors Pavel Durov, c'est le fondateur de Telegram, en fait, que nous utilisons, donc qui est un système alternatif qui est plus sécurisé, entre guillemets, que WhatsApp. Et surtout, WhatsApp est contrôlé par l'État profond américain, donc ça ne nous intéresse pas. Donc il n'y a pas de canal sur WhatsApp. Hein. Il y a un seul canal sur de StratPol, c'est celui où il y a plus de 67 000 abonnés. Donc tous les autres canaux sont des faux. Je sais qu'il y en a sans arrêt qui apparaissent. Je ne peux pas faire leur faire la chasse en permanence. Il y en a qu'un seul qui est bon, c'est celui où c'est marqué StratPol, voilà, et où il y a plus de 67 000 abonnés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, la question se pose, est-ce que Telegram est un système sûr? En tout cas, il y a quelque chose de certain, c'est que, eh bien, Pavel Durov est plutôt dans notre camp. Il a donné donc cette interview sur laquelle je voulais attirer votre attention à Tucker Carlson, le même Tucker Carlson qui a interviewé Vladimir Poutine il y a quelques mois, eh bien, et dans lequel il a expliqué qu'effectivement, lorsqu'il voyage aux États-Unis, il subit des pressions par les autorités américaines, que le FBI a essayé de recruter un de ses informaticiens, alors non pas pour le débaucher, mais pour qu'il travaille pour eux à l'intérieur de son de Telegram pour créer, pardonnez-moi l'anglicisme, des backdoors, qui donc des portes arrière qui permettraient de rentrer dans le système. Donc ce qui est intéressant en tout cas, c'est que Pavel Durov nous dit la vérité. À une époque, il était beaucoup plus critique de la Russie que des États-Unis, et là finalement, il met les pieds dans le plat et c'est quelque chose d'important. Donc il y a quelques extraits qui ont été sous-titrés en français de ce que j'ai vu sur les chaînes donc de RT en français. Et sinon, bah, évidemment, pour les anglophones, vous pouvez l'écouter en anglais. Et si l'un d'entre vous a une version sous-titrée ou doublée en français, n'hésitez pas à la mettre en commentaire de cette vidéo, essentiellement sur Odyssée. Mais maintenant, rentrons directement dans le domaine économique. Et la première chose qu'il faut souligner, je remercie d'ailleurs Thibaut de me l'avoir envoyé, c'est la stratpolisation du FMI, du Fonds monétaire international, qui vient d'augmenter les prévisions de la croissance de l'économie russe. Donc, on devait être à 2,6 et là, on est monté à 3,2%. Et au passage d'ailleurs, et ça on le doit à notre ami Laurent Michelon, donc spécialiste de la Chine, c'est pareil, la Chine a surpris tout le monde avec un 5,3%. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la Russie comme pour la Chine, on nous avait expliqué que les choses allaient mal. Et c'était notamment un des espoirs, si vous vous souvenez, on s'en était un petit peu moqué, de ceux qui prévoyaient donc une chute économique de la Chine, donc qui entraînerait évidemment des conséquences sur la Russie, qui est un grand fournisseur d'hydrocarbures pour la Chine, surtout maintenant. Et donc tout ça n'aura pas lieu. Tout ça montre que finalement la Russie et la Chine suivent la bonne voie. Alors j'ai vu au passage que ça avait copieusement énervé Florian Philippot, évidemment, qui s'en est pris à notre Mozart de la finance, le fameux Bruno Le Maire, puisque effectivement, comme il le souligne, la croissance russe est 5 fois plus élevée que la croissance française. Donc l'effondrement, s'il y en a un, ce ne sera pas celui de l'économie russe. Du côté des hydrocarbures russes, eh bien, les bonnes nouvelles continuent. On a appris sur Reuters que les capacités de raffinerie, donc, qui avaient été abîmées, endommagée par les quelques drones ukrainiens, eh bien en fait avait été réparée, donc la production avait repris son cours normal, hein, c'est sur Reuters. On a appris également que malgré les contraintes, les interdictions, les sanctions, les menaces qui sont faites contre la flotte de tankers russes, qui maintenant s'occupe de transporter le pétrole russe, eh bien cela n'avait pas donné de résultat, puisque d'après Bloomberg, les ventes de pétrole russe ont atteint un maximum sur ces 11 derniers mois. Donc là-dessus aussi, les choses vont bien. On apprend au passage que la Chine donc, est destinataire à 50% du pétrole russe, le reste étant livré à l'Inde et au Pakistan. Hydrocarbures toujours, du gaz cette fois, et du gaz liquéfié, puisqu'un article du Wall Street Journal nous apprend quelque chose que nous savions déjà, c'est que il y a une volonté officielle des États-Unis de planter le projet donc Arctic LNG. Hein, je rappelle, je l'ai souvent dit, mais c'est toujours bien de le répéter. Donc il y a un premier projet auquel notre Total national a participé qui s'appelle Yamal LNG, et il y en a un autre en face qui s'appelle Arctic LNG, et les Américains pensaient qu'avec toutes les sanctions qui avaient été mises, eh bien la Russie ne serait pas capable de le terminer, donc cette exploitation, donc hein, extraire le gaz, le liquéfier et l'exporter. Or, bien il y a deux mois, Vladimir Poutine a inauguré le lancement de l'usine LNG, et donc les Américains ont essayé de frapper pour, je cite, hein, c'est Geoffrey Payat, le secrétaire de la Maison Blanche, donc qui a expliqué que le rôle des États-Unis était de s'assurer que Arctic LNG 2 était mort dans l'eau, hein. Dead in the water. Donc pour ça ils ont mis des sanctions sur les entreprises sud-coréennes et japonaises qui fournissent les méthaniers à la Russie. Donc évidemment, ça va retarder le projet, donc ou en tout cas le réduire. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que j'écoutais une analyse sur la radio Vesti, donc qui est l'espèce de France Inter russe. Bon, sauf que c'est national conservateur, hein, c'est pas gauchiste comme notre France Inter, évidemment. Et donc il y avait un des spécialistes donc des marchés gaziers russes qui disait qu'après tout, c'était une bonne occasion pour que la Russie se mette à produire elle-même ses propres bateaux. Donc il y avait un défi à relever, évidemment. Pas très loin, il y a la Chine, et donc il y a de fortes chances qu'il va y avoir du retard, incontestablement, sur les livraisons de gaz liquéfié, mais que les Russes finissent par devenir souverains dans ce domaine-là également. On les voit faire depuis 2014, encore une fois, les sanctions n'arrêtent pas les Russes, il faut être stupide pour le penser. Le Japon, même s'il ne peut pas livrer les méthaniers, a décidé de maintenir ses investissements dans les projets d'hydrocarbures sur Sakhalin 1 et Sakhalin 2. Donc ça avait été dit par Tokyo depuis le début des sanctions et de l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire que pour eux, la question de l'énergie est stratégique. Donc ils participeront aux projets gaziers et pétroliers russes comme ils en avaient l'intention et comme ils le font depuis au moins une vingtaine d'années. Sanctions toujours, et cette fois sur les métaux, puisque Washington et Londres ont décidé de prendre des sanctions contre les exportations de métaux russes, notamment les métaux non ferreux. Et donc comment est-ce qu'ils ont fait? En fait, il y a deux bourses principales dans le monde, l'une à Chicago et l'une à Londres, London Metal Exchange, quelque chose comme ça, et donc où en fait ces deux bourses ont des capacités de stockage, et donc elles achètent et elles revendent, donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, les sanctions ont interdit donc à Chicago et à Londres de faire ces genres d'opérations. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Eh bien parce qu'il y a un an, en avril de 2023, Washington a déjà décidé de prendre des sanctions en augmentant les droits de douane sur l'aluminium, le nickel russe, donc des droits de douane à 200%, ce qui fait que petit à petit, l'économie américaine s'est habituée à ne plus acheter de l'aluminium ou des métaux, notamment non ferreux, russes. Et ils se disent que maintenant qu'ils sont prêts, eh bien, ils vont pouvoir imposer la même chose aux autres. Ce que ça va faire, ça va être comme pour le reste, c'est-à-dire que la Russie va évidemment trouver des clients alternatifs. Avec le développement des économies en Asie, c'est pas ce qui manque. Et de toute manière, ces produits métalliques vont finir par arriver sur le marché européen par des circuits détournés, donc vont arriver plus cher. Et donc finalement, encore une fois, ce sont des sanctions qui aboutissent à faire payer les Européens, et qui servent en fait à l'économie américaine et à l'économie anglaise au passage. Donc voilà le sens un peu de ces sanctions. En tout cas, ça a entraîné immédiatement, et ça évidemment, bah, c'est bon forcément pour la Russie, une augmentation de l'aluminium, donc qui a augmenté de 9,9% précisément sur le London Metal Exchange, et puis également le nickel qui a augmenté de 9,3%. En revanche, effectivement, ces mesures vont frapper certaines entreprises russes, au moins momentanément, et c'est le cas de Ruski Alumini, de Oleg Deripaska. Guerre économique donc de Washington contre l'Europe et guerre économique de Washington contre la France, et ça on l'apprend grâce à un article du Canard Enchaîné, je remercie Sylvain de me l'avoir envoyé, et dans lequel eh bien, on parle d'une guerre nucléaire livrée par Washington à la France, et en fait à Framatome. Et ça, on en avait parlé dans notre dernier bulletin, puisque Framatome et Rosatom ont un accord pour fabriquer ensemble, et précisément le projet dont il était question en Allemagne, du carburant nucléaire pour les centrales de technologie soviétique ou russe, centrales nucléaires qui sont encore présentes en Europe. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas à Washington, qui veut mettre des sanctions pour empêcher toute coopération entre les Européens et la Russie, et puis avec toujours dans la balance le rachat de la filiale d'Alstom qui avait été vendue avec la bienveillance d'Emmanuel Macron à General Electric et qui fabrique les turbines Arabelle. Voilà, donc là, quand Emmanuel Macron, tout d'un coup, au bout de 6 ans, s'est réveillé et a dit qu'il faut relancer un programme nucléaire, eh bien, il a fallu se réacquérir nos technologies. Et ce n'est pas certain qu'on y arrive parce que Washington ne veut pas. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que nous avons tourné un numéro de l'échiquier mondial, donc sur RT en français, qui va parler de la géopolitique du nucléaire civil. Donc, inscrivez-vous pour ne rien manquer. Et puis, dernière petite nouvelle économique, le pillage de l'argent des contribuables français, allemands, italiens par la Pologne continue, puisque l'Union européenne vient de donner la plus grande somme qui n'avait jamais été donnée à la Pologne, maintenant qu'elle est rentrée dans le rang et qu'elle est dirigée par une coalition de gauche. Donc, la somme est montée à 6,2 milliards, et donc 2/3 de prêts et puis un tiers de subventions, voilà. Tranquillement, et pendant ce temps-là, nous, eh bien, notre Moser de la finance nous endette et nous vole notre argent par des impôts confiscatoires. Le chancelier Olaf Scholz a rencontré le président Xi Jinping à Pékin, et l'une des raisons de son voyage était de demander la fin de soutien du Pékin à la Chine. Alors évidemment, ça a complètement échoué. Xi Jinping a expliqué qu'il ne pouvait y avoir de négociations de paix sans la Russie. Et aujourd'hui, le pays le plus légitime pour accueillir ces négociations pourrait très bien être la Chine. On ne sait pas quand ces négociations arriveront. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le représentant de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, M. Vassili Nebenza, a fait cette déclaration qui a dû glacer le sang de Zelensky.
Уже очень скоро. Единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться.
À l'évidence, le calme et la certitude de Vassili Nebenza a dû largement inquiéter que ce soit Joe Biden, Emmanuel Macron ou Olaf Scholz. Et ça explique la vignette de notre bulletin numéro 182. Empire du mensonge maintenant, et je remercie Nicolas Delot de m'avoir fait parvenir cet article de Foreign Policy. Donc c'est un peu la voix du ministère des Affaires étrangères américain, c'est le département d'État, et dans lequel il est question des négociations qui ont échoué au début de la guerre OTAN Russie, donc c'est-à-dire de l'opération militaire spéciale en février, mars, avril 2022. Donc on apprend effectivement qu'il y avait des concessions qui avaient été faites de part et d'autre. Ça, on le sait, notamment avec l'intervention de Johnson et les confessions de David Arachamia, qui est le chef du groupe de Zelensky au Parlement ukrainien, de la Rada, qui faisait partie des négociations, qui a dit que c'était la faute de Boris Johnson. Et c'est aussi la faute de Washington, qui, soit dit, d'après l'article, ne voulait pas donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Bon, qu'on retient toujours, surtout de cet article, c'est que c'est un moyen d'expliquer que le département d'État américain est prêt à négocier avec la Russie et à concéder ce qui était déjà concédé à cette époque, ce qui aurait pu être concédé à cette époque, c'est-à-dire la Crimée et le Donbass. En gros, c'est ça. Sauf que, entre-temps, les choses ont un petit peu changé. Il y a, en plus du Donbass et de la Crimée, il y a deux régions qui ont été réunifiées à la Russie. la région de Zaporojie et la région de Kherson. Et en plus, la situation sur le terrain est extrêmement défavorable aux forces otano-kiéviennes. Donc il est peu probable que la Russie accepte évidemment cet accord qui aujourd'hui fait rêver Washington. Aujourd'hui, en fait, pour que la Russie ne s'empare pas d'Odessa, je pense que Washington est prête à tout, même à perdre Kharkov. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que visiblement ça veut négocier, et on le sent chez un peu toutes les administrations. On sent à la fois la panique, on en avait parlé la dernière fois, et on sent que dans toutes les administrations washingtonienne, londonienne, macronienne, scholzienne, tout le monde a peur de cette défaite humiliante qui paraît aujourd'hui inévitable de l'OTAN face à la Russie. Terrorisme maintenant, et on va parler un petit peu de la Géorgie, hein, puisque en ce moment il y a une espèce de tentative de Maïdan en Géorgie. Alors, pour rappeler la situation, en fait, il y a un gouvernement qu'on pourrait qualifier de conservateur, alors absolument pas russophile, hein, d'ailleurs, ils ne reconnaissent pas la perte de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, ce gouvernement voudrait faire passer une loi qui est identique à celle des États-Unis sur les agents étrangers. C'est-à-dire que, en gros, si jamais, donc que vous soyez politique, journaliste, etc., vous êtes financé à plus de 20% par une puissance étrangère, vous devez vous définir comme agent étranger. La Russie aussi s'est inspirée de cette loi américaine. Le problème, c'est que cette loi, évidemment, elle convient bien aux États-Unis, parce que la plupart du temps, c'est eux qui financent. Mais évidemment, pour les États esclaves, comme la France ou la Géorgie, c'est absolument inadmissible pour Washington. Et en plus, il y a plein de responsables politiques géorgiens qui vivent des subsides de Washington et qui en vivent très bien, comme celui qu'on voit d'ailleurs sur cette vidéo en train de frapper un député adverse donc au Parlement géorgien. Donc ça a entraîné évidemment de grandes manifestations soutenues par le président, donc qui est, pour bien qu'on se rende compte du niveau de satrapie de la Géorgie, le président qui est une présidente, en fait, donc Madame Salomé Zourachvili, est l'ancienne ambassadeur de France en Géorgie, tant qu'à faire. Donc double nationalité. Et donc évidemment, elle, c'est la voix de son maître, c'est la voix de George Soros, c'est la voix de Washington, peut-être même un peu la voix d'Emmanuel Macron. Et donc il est hors de question que ce genre de loi soit prise. Donc on va voir ce que ça va donner. Le bras de fer continue, il y a eu des arrestations. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même loi qui existe aux États-Unis. D'ailleurs, le gouvernement géorgien l'a fait exprès. Au-delà de la soumission politique qui est exigée par Washington, il y a aussi le poids du lobby LGBT, puisque toutes les associations LGBT sont financées de l'étranger quasiment en Géorgie. Donc ça va quand on ne le dit pas, mais quand systématiquement vous devrez dire que telle association qui promeut les valeurs LGBT en Géorgie, eh bien, sont des agents de l'étranger, financés par étrangers. Déjà que visiblement, dans la population géorgienne, toute cette idéologie passe très mal, ça passera encore plus mal. À suivre donc. Armement maintenant, j'en ai parlé à l'instant, donc le vent de panique, hein, qui secoue les otano-kiéviens, et notamment Stoltenberg, qui, une fois de plus, était toujours aussi fébrile, toujours en train de trembler, et qui là explique aux membres de l'OTAN que s'ils doivent choisir entre armer l'Ukraine ou reconstituer leur stock de munitions, d'armement, eh bien, ils doivent donner la priorité à l'Ukraine. Donc, puisque c'est la remise en cause, en fait, de l'exigence de mettre un certain pourcentage de son PIB dans de l'armement, de monter en puissance, etc. En fait, aujourd'hui, la panique est telle que la priorité absolue, c'est l'Ukraine. D'autant plus que les 1 million d'obus tchèques mettent du temps pour arriver. D'ailleurs, on apprend dans la presse tchèque que, eh bien, avec l'argent qui a été récolté, la Tchéquie n'aurait pu acheter finalement que 180 000 obus au lieu des 1,5 million prévus, parce que les prix ont augmenté. Et oui, toujours, c'est ce problème de l'offre et de la demande. Je sens derrière cette opération de lever d'argent pour acheter des munitions, une espèce d'escroquerie au niveau étatique, hein, pour essayer d'absorber l'argent qui est donc toujours pris dans la poche des mêmes, hein, les Français, les Allemands, les Italiens, qui arrive dans l'Union européenne et qui est redistribué. Même l'Estonie aujourd'hui, a priori, aussi veut faire des levées de fonds pour acheter des munitions pour l'Ukraine. Donc je sens qu'on va avoir une belle escroquerie, un peu du même genre que celle des vaccins, si vous voyez ce que je veux dire. escroquerie toujours, puisqu'on apprend dans la presse suisse que les F-35, hein, le F-35 c'est l'avion multirôle le plus mauvais et le plus cher de l'histoire de l'aviation militaire. Donc cet avion qui est vendu à grands coups de pression et de menaces par Washington à ses différents alliés, ou plutôt à ses différents vassaux ou esclaves, eh bien cet avion sera livré à la Suisse sans les modernisations qui ont été entreprises ces dernières années. Puisque en fait il y a énormément de problèmes sur ce F-35, y compris la motorisation. Lockheed Martin essaie de régler ces petits problèmes, mais en attendant, les avions qui sont livrés, donc tout neufs, sont livrés avec l'état initial de ce programme hors de prix. Et donc ce qu'on apprend dans cet article de Blick, c'est que même si ces modernisations, ces améliorations devraient être terminées en 2025, les avions qui seront livrés à la Suisse en 2027, eux auront les vieux systèmes qui ne marchent pas. Donc voilà, bon, de toute manière, le F-35 n'est pas du tout adapté aux besoins de la Suisse. La logique aurait voulu que les Suisses achètent du Rafale ou alors du Gripen, mais certainement pas ce F-35. Voilà, ne manquez pas bientôt sur RT en français l'échiquier mondial consacré à la neutralité, la pseudo-neutralité de la Suisse, avec Guillaume étant notre invité. Aviation militaire toujours, et le premier ministre grec a déclaré qu'il n'y aurait aucun F-16 grec qui serait livré à l'Ukraine. Voilà. Y aura-t-il des F-16 livrés à l'Ukraine? C'est d'ailleurs la question qu'on peut se poser. On verra bien. En tout cas, les Russes les attendent de pied ferme. Considération militaire générale, et eh bien notre gamelin de la semaine, c'est le général Richou, donc qui nous a fait deux belles prestations. Alors la première prestation, c'est qu'il s'est fait humilier sur LCI par Alain Poëdi, puisque Alain Poëdi veut que toutes les populations européennes se mobilisent et aillent faire la guerre à la Russie. Et donc le général Richou a tenté un moment d'essayer de la ramener à la raison en lui disant qu'il fallait qu'elle commence par y aller elle-même. Hein. En gros, c'est ce qu'il a dit. Et là, il s'est fait traiter de petit troll russe. Et donc là, c'est intéressant parce que je pense que ce pauvre Richou ne devait quasiment rien connaître de l'Ukraine avant le début de l'opération militaire spéciale. Mais là, tout d'un coup, eh bien, il découvre ce que c'est que le caractère de ce genre d'ukraino-bandériste. Et donc, il peut faire de l'aplavantisme toute la journée, d'être gentil, de lui amener un café, de dire tout ce qu'elle veut entendre, etc., etc. Ce sera jamais assez. Et donc là, il a osé lever le ton et clac, il s'est pris une tape sur le museau. Et ben il est rentré dans l'ordre, hein, parce que de toute manière, il n'a pas le choix s'il veut continuer à cachetonner sur LCI. À côté de ça, il nous a fait encore une belle gamelinade, puisqu'il nous a expliqué que le canal Donetsk-Donbass, donc c'est un canal qui part de la rivière Donetsk et qui descend jusqu'à la ville de Donetsk et qui passe par Tchassofiar, qui est une des zones de combat principale aujourd'hui sur le front, eh bien que ce canal allait constituer un obstacle naturel sur lequel les Ukrainiens allaient pouvoir s'appuyer pour empêcher les Russes d'avancer. Donc je vous propose quelques photos du canal Donetsk-Donbass, et d'ailleurs j'ai pris la peine d'aller voir quelle taille il faisait, et a priori la plus grande largeur du canal c'est 4 mètres, donc il fait entre 2 et 4 mètres. Donc n'importe quel système de pont mobile, notamment les Russes ont le MTU-90M, eh bien, peut en quelques minutes poser un pont jusqu'à 6 mètres, je crois. Donc évidemment, ça ne va pas contrarier énormément l'avancée des Russes. Et en plus, les Russes tiennent toute la ligne de front, ils pourront passer à peu près où ils voudront. Considération militaire toujours. Vous vous souvenez, on en avait parlé au moment de la chute d'Avdiivka, de la débandade du régiment Azov, ex-régiment Azov, devenu la 3e brigade d'assaut, si je me souviens bien. Eh bien, il avait été envoyé pour tenir la Kokrie, donc qui se trouvait dans le nord d'Avdiivka. Et quand il avait vu que c'était pas opération viol et pillage comme d'habitude, comme à Mariupol ou à Kharkov, mais qu'il fallait faire la guerre et que les Russes tapaient dur, eh bien, il s'était enfui. Hein, on s'en souvient. Eh bien, la même chose s'est reproduite cette fois avec la 67e brigade, donc qui est une émanation du Pravi Sector. Vous vous souvenez déjà à l'époque, hein, Slava Ukraini, Bandera, Shushkevich, Melnik, blablabla. Eh bien oui, finalement, ils sont doués pour le terrorisme, même pas pour la guerre, puisqu'ils ont fait exactement la même chose à Tchassofiar, et précisément dans la partie, l'extrémité est de Tchassofiar, où ils devaient arriver en renfort. Ils sont arrivés, ils ont vu que c'était très mal parti, et ils se sont enfuis. À tel point d'ailleurs que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, donc le général Sirski, a décidé de lancer une espèce d'enquête pour reformer cette unité qui s'est enfuie. En tout cas, c'est très révélateur, encore une fois, sur la nature de ces unités de représailles qui finalement ne sont que ça, des unités de flicage de la population, de menaces, des unités d'arrêt pour pas que l'armée régulière abandonne ses positions. Et alors, ce qu'on entend également chez certains analystes, mais je suis pas persuadé que ce soit le cas, c'est qu'en fait, ils étaient soutenus par Zaloujné, ils soutenaient Zaloujné, etc. Et puis Sirski, comme je l'ai dit, vient de la région de Vladimir en Russie, donc c'est un Russe. Bon, bref. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un signe très mauvais pour l'état de l'armée ukrainienne, donc ces espèces de désertions, d'abandon de poste, et d'autant plus que ça a eu un écho sur les troupes régulières. Et on observe, alors ça c'est les chiffres qui sont donnés par les Russes, donc il faut prendre ça avec prudence, mais il y aurait à peu près 200 désertions sur cette zone suite à la désertion du Pravi Sector. Donc c'est les deux choses qui font suivre à ce sujet, c'est le comportement des unités de représailles, donc très mauvaises au combat, très bien pour torturer, violer, piller, mais qui au combat sont nulles. Et deuxièmement, c'est la multiplication des désertions ou des redditions, hein, des unités qui se rendent directement à l'armée russe. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que c'était que cette histoire à Slaviansk où, a priori, la Légion étrangère serait arrivée pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Alors, dans la presse russe, on a même parlé du 3e régiment étranger, ce qui me paraît peu probable parce que le 3e régiment étranger, il est en Guyane. Et il est spécialisé en combat à jungle. C'est pas vraiment très utile en ce moment sur le front du Donbass et à Slaviansk. Donc je pense qu'en revanche, il y a peut-être effectivement les écoutes russes ont révélé la présence d'anciens légionnaires, peut-être d'ailleurs des Ukrainiens. Et effectivement, les Russes ont annoncé avoir détruit une concentration précisément de mercenaires. Donc ça, c'est pareil. Bon, c'est les Russes qui le disent. Donc il faut prendre ça avec prudence. Il faudrait que ce soit vérifié ultérieurement. Et ce genre de choses-là, on le sait, encore une fois, par les nécrologies. Voilà ce qu'on peut dire. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas d'unité française officiellement déployée en Ukraine. Il y a évidemment, encore une fois, on l'a dit, des instructeurs, Scholz l'a dit, il y avait des Français et des Anglais, mais il n'y a pas d'unité en tant que telle déployée du côté otano-kievien. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. La Russie continue à frapper dans toute la profondeur du territoire ukrainien sur les installations énergétiques critiques et également sur les infrastructures militaires. Et notamment, il y a eu une frappe sur l'aéroport militaire de Khmelnytskyi à cet endroit-là. Donc, c'est un aéroport, d'après ce qu'on dit les Russes, qui doit accueillir les F-16. Les Ukrainiens en ont fait autant en frappant l'aéroport de Tchankoï en Crimée. Les frappes ont entraîné un incendie, mais on ne sait pas exactement ce qui a été détruit. Rien à signaler dans la région de Kherson. Tension toujours du côté d'Energ Godar et le Grossi, donc le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a mis en garde sur la possibilité d'un incident nucléaire. Du côté de Robotino, là aussi, rien de vraiment neuf. Les Russes, visiblement, essaient de faire un petit encerclement en avançant vers le nord, mais ce n'est clairement pas un objectif prioritaire. Les Russes continuent à mettre la pression en direction de Velika Novoselka et d'Ugledar, mais pour l'instant, rien de significatif à noter. J'ai un peu ajusté la carte à cet endroit-là pour Novomikhaïlovka, mais pour l'instant, les Russes, alors soit veulent continuer à détruire les réserves ukrainiennes en les attirant à cet endroit-là, soit à cause de ces réserves, ils n'arrivent pas à avancer à l'ouest de la localité. Du côté de Krasnogorovka, les Russes ont lancé plusieurs groupes d'assaut assez audacieux, ce qui leur a permis de pénétrer bien à l'intérieur de la localité. Là où ça a bien avancé, eh bien, c'est à l'ouest de Pervomaïsk, hein, puisque après avoir libéré le territoire de Pervomaïsk lui-même et de Vodiané, on en avait parlé la semaine dernière et celle d'avant, eh bien, les Russes continuent à avancer et ont pénétré à la périphérie est de Netaïlovo. Donc, le but, hein, c'est d'arriver jusqu'au réservoir de Kharlovka à cet endroit-là. Et ça a permis de consolider le front à cet endroit-là également. Les Russes ont fini par s'emparer de Semenovka et sont sur le point d'achever la conquête complète de Berdichi à cet endroit-là. Et surtout, là où ils ont été très très bons, c'est qu'ils ont réussi à progresser très rapidement et à pénétrer dans l'extrémité est de Otcherotino, donc à peu près à cet endroit-là. Je vous rappelle, là, on est sur les hauteurs et on est en direction de Pakrovsk, donc c'est extrêmement important. Ça ouvre un espace opérationnel tout à fait intéressant pour les Russes, non seulement vers Pakrovsk, comme je viens de le dire, mais également de remonter vers le nord, d'autant plus que les Russes ont commencé à mettre la pression sur la ville de New York à cet endroit-là et de Toretz. Hein. C'est à partir de ces localités-là que la ville martyre de Gorlovka est bombardée depuis 2014. Hein. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à faire. Donc belle progression. Et les Russes aussi continuent d'avancer sur Novokalinovo et vers Keramik à cet endroit-là. Les combats font rage dans la direction de Chasov Yar, mais pour l'instant, j'ai pas noté d'avancée particulière. En plus, il y a pas mal d'informations contradictoires. Certains disent que les Russes ont réussi à atteindre le canal, d'autres qu'ils n'ont pas réussi. Bon, dans le doute, je ne bouge pas la ligne de front. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les Russes mettent une pression énorme donc sur la zone est de Chasov Yar, d'où s'est enfui le Pravi Sector il y a quelques jours. Du côté de Seversk, les Russes continuent d'avancer vers Vimka, cet endroit-là, c'est toujours pour tenir les hauteurs, mais pour l'instant, ils n'ont pas pénétré la localité. Effort également sur Belogorovka, mais pas de changement significatif sur la ligne de front. Pas de changement non plus dans la direction de Kharkov, que ce soit du côté du village de Ternay ou de la direction de Kupiansk. Voilà où nous en sommes le mercredi 17 avril 2024, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos différents canaux, notamment Telegram, Twitter, Odyssée, Rumble. Inscrivez-vous pour ne rien manquer. Procurez-vous un VPN pour contrer la censure du régime d'Emmanuel Macron. Donc nous avons un partenariat avec Planète VPN. N'hésitez pas à suivre des cours de russe en ligne avec Logios, qui est également notre partenaire. Et puis bien sûr, Géopolitique Profonde. Et le livre du moment, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. C'est extrêmement important. Voilà, les nouvelles sur le front sont particulièrement bonnes ces derniers jours. Donc, courage, on les aura.